Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci d'être en compagnie des Radio Okapi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Le processus démocratique en RDC a totalisé 27 ans, c'est 24 avril 2017. Cette ère a été inaugurée le 24 avril 1990 avec les discours de feu, le maréchal Mobutu instaurant le pluralisme politique et syndical. Après avoir connu le monopartisme pendant plus de 30 ans, le pays compte à ce jour près de 400 partis et regroupements politiques, des dizaines de mouvements syndicaux, des centaines de médias audiovisuels et des dizaines de journaux. La RDC dispose d'une constitution votée par un référendum et a connu deux cycles électoraux. Que faire pour consolider ces acquis? C'est la question au centre de notre échange. Rejoignez-nous au 081-890-63-80, 081-890-49-69 pour intervenir en direct. André Mongou est à la mise en onde de Nico Kalambay, à la réalisation, et Pierrot et la Meiji vous présentent ces magazines sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Le 24 avril 1990 a été inauguré ainsi le multipartisme après près de 30 ans de règne du monopartisme au pays. 27 ans après, quels ont été les acquis de ces processus démocratiques? Comment consolider cela? Nous recevons dans ce studio le professeur Stéphane Nzita Dinzita, chancelier de l'université chrétienne
internationale.
Vous êtes aussi acteur politique du centre.
Tout à fait. Je suis le président du Parti du Peuple Progrès du Congo et participant de la plateforme Équilibre National pour la majorité morale. Nous sommes du centre.
Vous êtes du centre. 27 ans après, est-ce qu'on peut dire que ça a été important, cette date du 24 avril 1990?
Nous avons atteint un moment irréversible. Ce sont les gens qui rêvent encore, qui pensent que les Congos peuvent encore reculer. Ça ne va pas se faire, c'est fini. Donc, c'est question maintenant de voir que tout changement a été résisté. Ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est une résistance au changement, mais un changement irréversible.
Un changement irréversible. 400 regroupements politiques, des dizaines de médias. Est-ce que la démocratie peut, le thermomètre de la démocratie peut être en termes de ces nombres de partis politiques, de ces médias, de ces syndicats?
Là, c'est justement nous perdre du sens. Le problème n'est pas le nombre de partis politiques. Le problème, c'est que dans la démocratie, c'est la liberté et les défenses des libertés des autres. Mmh. C'est la justice, c'est le respect des textes, dont la Constitution. Donc, c'est pas le nombre de partis, mais c'est plutôt la compétition qui sera loyale, ça que nous cherchons tous.
Mmh. Mais est-ce que quand vous regardez l'espace politique aujourd'hui, les efforts qui ont été fournis, on peut dire qu'on a assez évolué 27 ans après?
Nous avons évolué. Nous avons évolué, et quand de près ceux qui pensent le contraire, je pense que nous avons vu en 90. J'étais ici, moi, je venais de terminer mes études aux États-Unis. Nous sommes venus ici pour instaurer justement notre parti. Malheureusement, nous sommes rentrés sans qu'on puisse l'introduire. On a changé. Mais depuis 90 jusqu'à présent, je suis la scène congolaise de très près, et je pense qu'on a fait du progrès. Il y a des problèmes maintenant. Vous savez qu'après ça, il y a eu la Conférence nationale qui est venue, les rebelles qui sont venus avec une nouvelle introduction. C'était la révolution prise en charge, que chacun se prenne en charge. Mais ce que nous avons trouvé finalement, c'est que les Congolais, même avec ce qui est venu, vous savez que les Congolais, le premier pays au monde qui a eu une guerre internationale non déclarée, où neuf voisins sont venus imposer leur volonté ici, mais les Congolais sont restés égaux à eux-mêmes, qu'ils ont même réussi de dire quelques jours après que deux heures qu'on a cric, je me suis changé de chauffeur, caca chauffeur, mais tout cas mes amis cric. Donc, je pense que de là déjà, nous avons vu quelque chose qui est venu aux Congolais, une conscience nationale, une résilience. Et on pensait qu'il fallait que Mobutu parte, il est parti, et malheureusement Mose est parti aussi. Mais durant ces temps-là, les 30 ans, qu'on est 27 ans qu'on vient d'avoir, une bonne partie a été gérée par les gens de la révolution. Prendre en charge, et nous pensons qu'ils sont au bout de leur force, mais c'est la démocratie demande que le peuple ne soit pas un peuple mouton, il faut que le peuple soit travailleur.
Merci.
Et n'est pas accepté qu'on accepte l'inacceptable.
Voilà, nous allons ouvrir notre standard Arsène, vous êtes à Kikwit, merci d'être avec nous et bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
Et 27 ans après, comment consolider les acquis de ces processus démocratiques?
Merci beaucoup Monsieur Pierrot pour la parole. Moi je crois, d'abord il faut prendre la lecture de l'histoire, comment ça s'est passé. Le contexte international et national à l'époque ne permettait plus au maréchal Mobutu de continuer sur le monopartisme qu'il a instauré. Bien que il avait instauré une certaine discipline politique dans le pays, qui a donné une certaine stabilité politique dans cette nation. Mais alors, à son discours, c'était tout un problème qu'il fallait résoudre maintenant. Il fallait changer les mentalités. Des gens qui étaient habitués avec un seul parti politique devaient maintenant intégrer plusieurs partis politiques. Le changement brusque de la moralité populaire ne pouvait pas aller si facilement. Alors là, on a vu un peu un changement de façon de voir les choses. Il y a eu, par exemple, M. Étienne Tshisekedi qui est venu avec sa doctrine de l'état des droits, une doctrine qui ne pouvait pas facilement aussi se mettre en place. Ensuite, il y a eu un problème aussi, le problème de la façon de concevoir la démocratie. La démocratie n'était pas conçue comme un élément qui pouvait promouvoir le développement. La démocratie a été vue comme quelque chose qui pouvait faciliter les désordres ou l'indiscipline même de la politique. Alors, nous avons vu des acteurs politiques se mettre sous le chantier dans l'indiscipline. Dans cette indiscipline-là, nous avons eu des conséquences graves. Il y a les pillages. Après le pillage, il y a malheureusement pour lui, le maréchal est tombé malade. Il a eu cette faiblesse-là de ne plus contrôler correctement le pays. Et il y a eu l'invasion des aventuriers qui nous ont importé la guerre. Quelque chose que les Congolais n'avaient pas dans leurs habitudes. Et nous avons connu une guerre imposée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore sortis. Mais alors, il y a aussi des avantages. Il y a eu, par exemple, l'évolution. À l'époque, nous n'avions que une seule radio qui était la radio nationale et une seule télé qui n'était que la télé nationale, qui était contrôlée par le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons évolué un tout petit peu. Malheureusement aussi, quelque part, si je peux retirer la radio Capi et quelques trois ou quatre radios qui parlent un peu de l'objectivité, tout le reste, ce sont des radios et des chaînes inféodées à des partis politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons capitaliser de tout ça? Nous devons nous rendre compte que la situation n'est plus la même. La situation actuelle interpelle les acteurs politiques. Parce que nous revenons en quelque sorte en 1990, où le maréchal Mobutu, lui, il proposait le multipartisme à trois. Aujourd'hui, nous sommes presque à la même histoire. En dehors de ce qu'on appelait le multipartisme avec un multipartisme intégral. Parce que l'intégralité de ces partis politiques a entraîné les désordres.
Oui, mais Arsène, si on peut bien retracer, oui. Bon, ça c'est, il y a des erreurs, vous l'avez dit, il y a des avantages. Mais en ce qui concerne maintenant les acquis de tous ces 27 ans, on doit quand même regarder dans l'avenir. Quelle est la responsabilité de la population, de la classe politique aujourd'hui dans la consolidation de ces acquis?
Merci beaucoup, Monsieur Pierrot. Les acquis, nous l'avons. Par exemple, nous avons commencé à nous entraîner aux élections. Aujourd'hui, le problème se pose, le problème des élections. Mais regardez la turpitude de nos acteurs politiques. Ils vont faire traîner le pays uniquement parce qu'il y a des arrangements particuliers qui les avantagent. À quoi ça nous sert tous ces arrangements particuliers-là? Les arrangements particuliers, pour moi, enfin, je dis, mettez ça à côté, allons toutes nos élections, appuyez ceux qu'il faut appuyer, ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont en dehors. Tout le monde, que ce soit la majorité présidentielle, que ce soit les rassemblements et le groupe des opposants, tout le monde, nous devons avoir une même vision sur les élections. Nous avons à nous entraîner avec ces pratiques politiques-là et de là peut ressortir dans l'avenir le sérieux politique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sérieux politique. Ce ne sont que des aventuriers qui regardent leurs intérêts, les regardent.
Merci. Merci beaucoup, Arsène. Vous estimez qu'aujourd'hui, on devrait enterrer tout ce qui n'est pas prioritaire pour les élections, considérer cela comme c'était déjà un entraînement, hein, et continuer. Regardez à l'intérêt, c'est de cette façon qu'on peut consolider ces 27 ans du processus de pluralisme politique et processus démocratique. José, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Bonjour, bonjour Monsieur Fioro.
Vous avez suivi, Arsène estime que la seule manière de consolider les acquis de ces 27 ans de processus démocratique, c'est d'aller tout droit aux élections, n'est pas continuer à tourner autour des particularités comme on le voit actuellement au sein de la classe politique. Quel est votre point de vue?
Ah, écoutez Pierrot, mon point de vue est celui-ci. Le maréchal Mobutu a lancé le multipartisme malgré lui. C'était un impératif. Il n'avait pas de choix avec le vent du perestroïka qui est venu d'ailleurs. Et la multiplicité de partis politiques avec les chaînes audiovisuelles que nous avons, qui ne font que la promotion de leur patron, et comprenez les hommes politiques, et vraiment, il n'y a pas d'avancée à mon niveau. Il n'y a pas d'avancée à mon niveau, parce qu'en fait, dans un pays dit réellement démocratique, il y a deux éléments indissociables qu'on ne peut pas séparer, la justice et la force. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Au niveau de notre pays, la justice, bien entendu, n'existe pas lorsque les lois qui sont votées par nos politiciens sont foulées à pied par ceux-là même qui les ont votées. Et lorsque on trouve sur toute l'étendue du territoire national, on constate que l'État ne sait pas même asseoir son autorité sur toute l'étendue du territoire national, alors là, nous avons de problèmes sérieux. S'agissant des élections, est-ce qu'il y a réellement respect des textes de loi s'agissant de cette matière? Je ne pense pas. S'agissant de l'autorité de l'État, est-ce que le pays est réellement gouverné? Je ne pense pas. Parce que, regardez Pierrot, s'il y a par exemple une fissure qui sort, qui apparaît à l'Est, on essaie de boucher cette fissure à l'Est, il y a une autre qui apparaît dans le sud. C'est-à-dire, il y a une guerre à l'est. Vous essayez de résoudre ça. À l'ouest, il y a aussi une guerre qui apparaît. Alors là, nous n'avons pas vraiment d'avancée.
Il n'y a pas d'avancée. Mais alors, José, quelle est la responsabilité aujourd'hui de la classe politique et de la population pour qu'on puisse effectivement obtenir ces avancées rapidement?
Oui, mais c'est simple, Pierrot. C'est comme je viens de le dire. Nous devons alors... Même nos autorités doivent nécessairement respecter la Constitution et faire de tous les moyens asseoir l'autorité de l'État. C'est simple. C'est-à-dire, il faut que ces deux éléments indissociables soient réellement observés. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la force et il faut qu'il y ait aussi la justice. Mais lorsque ces deux éléments ne sont pas pris en compte, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que pour notre cas, pour le cas de la RDC, il nous faut encore, Pierrot, plusieurs années de pédagogie. La démocratie, bien entendu, j'aime ces termes. Moi, je préfère qu'on parle plus de la démocratisation parce que c'est un processus.
Merci voilà, beaucoup. Pierrot. C'est le processus de démocratisation. Vous estimez qu'on n'a pas suffisamment avancé parce que nous avons deux failles du côté de la justice ainsi que de l'instauration de l'autorité de l'État. Merci beaucoup. José Al-Boumbachi, maître Sonville, merci d'être avec nous. Alors, José estime qu'on n'a pas beaucoup d'avancées, mais Arsène a estimé que les avancées, c'est plus se concentrer sur les élections. Alors, pour vous, comment on peut arriver à consolider ces 27 ans de démocratisation pour qu'on puisse asseoir exactement la démocratie comme il faut? Bonjour, maître, et bienvenue.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, moi, je dirais d'abord que cette journée de la démocratie du 24 n'était pas un cadeau qui a été donné au peuple congolais par le maréchal Mobutu. C'était un fruit d'un combat ardu, un combat de l'opposition en son temps au moment où Mobutu avait une dictature la féroce. Mais Mobutu est parvenu à céder, à démocratiser la République démocratique du Congo. Maintenant, ce qu'il faut faire pour consolider cette démocratie, c'est le respect des libertés fondamentales, le respect des quelques dispositions de la Constitution, pour ne pas parler de l'article 26, liberté de la manifestation, la liberté d'expression, la liberté de penser. Respecter toutes ces libertés-là, puisque lorsqu'il y a une opposition, il faut laisser cette opposition parler, émettre les avis. Or, si chez nous, par exemple, la journée d'hier du 24 avril à Lubumbashi, ça s'est transformé, au lieu que ça soit la journée de la démocratie, c'était devenu la journée de la dictature, là où on utilise l'armée. Or, pour pérenniser ça, il faudrait que l'armée soit l'armée du peuple, il faudrait que la police soit la police du peuple. La police et l'armée ne peuvent pas être au service d'un groupe d'individus, soit d'un individu, pour intimider les autres qui ne sont autres qu'opposants. Or, le multipartisme est reconnu officiellement dans la Constitution. À ce moment-là, nous n'aurons pas observé, nous n'aurons pas appuyé la consolidation de cette démocratie. Mmh. Et au-delà de ça, il faudrait qu'il y ait changement de mentalité par les représentants du peuple, pour ne pas parler des députés et des sénateurs. Puisque si aujourd'hui nous avons des députés qui sont libres de leurs pensées, des députés qui sont à même de son, puisque nous vivons dans un régime représentatif, ces députés-là vont s'assumer pour sanctionner tout celui qui ira à l'encontre de la Constitution, puisque nul n'est au-dessus de la Constitution. Au-delà de ça, le peuple maintenant, à travers les élections, doit faire un choix judicieux par rapport à la désignation des députés, savoir qui peut être député, qui ne peut pas l'être. Puisque tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la défaillance de deux chambres. Mais je le dis et je le répète encore, aujourd'hui, ceux-là qui nous représentent au niveau du Parlement ne sont que des fantaisies, ne sont que des fantômes qui ne disent que oui, 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 aussi longtemps qu'on les a envoyés au niveau du Parlement pour discuter de la cause qui est noble, la cause de la population.
Alors, Maître Sauville, je crois bien, quand vous insistez sur la responsabilité de la population dans les choix qui doivent être opérés, c'est ça aussi, hein, la responsabilité de groupements, de partis politiques. On en a dit, il y en a beaucoup, mais c'est au sein des partis politiques qu'on devrait en principe encadrer, enseigner les civismes aux militants pour que ceux-ci, quand ils vont aller aux urnes, ils soient capables de juger une personne en fonction de son programme politique.
Monsieur Pierrot, vous avez totalement raison par rapport à l'éducation civique dans les partis politiques. Mais les partis politiques ne peuvent pas atteindre tout le monde. Mais là où le bas blesse, c'est du niveau où la RTNC est confisquée par le pouvoir. Les chaînes qui ont déclaré qui doivent être ouvertes jusque-là ne sont pas ouvertes, qui peuvent permettre aussi à l'opposition de passer et d'éduquer la population à travers ces médias-là. Vous comprendrez avec moi que jusque-là, la liberté d'expression est confisquée par le pouvoir. Ce qui ne
Merci.
Rend pas facile la tâche facile
de la sensibilisation. Merci beaucoup, merci beaucoup, Maître Sonville. Vous vous êtes beaucoup plus vous avez concentré votre intervention sur cette question de la liberté, de l'expression, le respect des libertés fondamentales, que ce soit la liberté de penser, de manifester, la liberté d'expression, l'accès aux médias, mais aussi la responsabilité de politiques qui sont élus, y compris aussi l'éducation de la population qui opère les choix sur ceux-là qui doivent le représenter. Merci beaucoup, Maître Sonville. On reste à Lubumbashi avec Maître Crispin. Alors, Maître, pensez-vous aujourd'hui que 27 ans après, y a encore beaucoup d'efforts en termes de respect des libertés fondamentales, comme venait de le dire votre prédécesseur? Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Je vais aborder dans le même sens du délit avec mon précédent confrère sur la radio. Il y a énormément beaucoup d'efforts à fournir. J'estime que jusque-là, rien n'est fait en République démocratique du Congo s'agissant des 27 ans déjà passés en ce qui concerne la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie n'est pas seulement et nécessairement le multipartisme. Parce que la démocratie est un ensemble qui comporte plusieurs sous-ensembles. La démocratie exige aussi qu'il puisse y avoir dans les pays qui se disent démocratiques, pas seulement le multipartisme, mais aussi la justice, mais aussi encore l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques. C'est aussi l'équité et l'étude des bons sens dans cet État. La démocratie dans un pays, c'est aussi le respect des traités dignement ratifiés par la République démocratique du Congo.
lorsque ces traités sont inclus dans une loi interne, le pays qui a ratifié ce traité est censé respecter parce que cela devient une loi. Lorsque vous prenez les articles allant de 23, 24, 25, 26 de la Constitution du 18 février, dans ces dispositions, nous reprenons les libertés fondamentales, lesquelles sont censées être respectées pour qu'on puisse parler d'un État démocratique. Tandis qu'en République démocratique du Congo, vous avez vu plusieurs manifestations du rassemblement des autres partis politiques qui réclament parfois le respect des accords et ainsi de suite, ce n'est pas le sujet, mais en passant, vous verrez que toutes ces manifestations sont interrompues. Il y a des forces de l'ordre qui devraient nécessairement protéger la population pour que ces manifestations puissent avoir lieu, sont là contre eux, ce qui n'est pas bon. Du point de vue justice et autres, vous verrez qu'il n'y a pas encore assez d'efforts fournis en République démocratique du Congo pour qu'on dise réellement que nous sommes un État démocratique. Donc tout est à zéro. Ce qu'il y a mieux à faire, c'était, comme cette journée vient de passer hier sous silence, je pense que le gouvernement devrait organiser des grandes manifestations pour pouvoir interpeller la jeunesse congolaise, les hommes politiques congolais, afin qu'ils puissent savoir que nous, peuple congolais, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la démocratie, nous avons besoin que nos libertés fondamentales nous soient restituées afin que nous puissions les exercer. Parce que nous existons dans un pays appelé République démocratique
du Congo. Merci, merci beaucoup, maître Christian.
Les journalistes, le permettez-vous.
Allez-y rapidement, oui.
Les pays qui se disent démocratiques n'appliquent même pas cette démocratie. Vous prenez les États-Unis d'Amérique, on ne parle pas des États démocratiques d'Amérique, mais ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais vous voyez là-bas le niveau de la démocratie. Donald Trump a été élu et vous verrez, il a laissé les manifestants passer tout ce qu'ils pouvaient faire parce qu'ils savaient que c'était leur liberté. Mais pourquoi la République démocratique du Congo n'a pas cette culture? Les autorités congolaises ne sont pas en mesure de pouvoir nous aider afin qu'on exerce nos libertés et qu'on dise.
Merci, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, maître Crispin. Vous estimez qu'il faudrait que ces noms portés, hein, la République démocratique du Congo devrait se refléter dans le respect des lois, respect des libertés fondamentales, dans la justice, mais au plus loin aussi dans l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. On va écouter Steven qui nous appelle de Kindu et on revient dans ce studio pour notre invité. Steven, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur. On vous écoute, Steven.
Oui, oui, merci, monsieur le journaliste. À mon humble avis, je trouve que nous avons encore une démocratie de nom, une démocratie balbutiante. Je pense, si nous faisons des analyses...
Oui, oui, Steven, si vous pouvez arrêter carrément votre radio, s'il vous plaît, arrêtez carrément votre radio. Oui, si vous arrêtez votre radio, Steven, ça va vous permettre de communiquer directement sans ces interférences sur les antennes. On vous écoute.
Oui, 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 je continue. Nous avons une démocratie de nom, une démocratie balbutiante. Et on peut passer à certaines analyses. Vous voyez, de 2006 jusqu'à nos jours. Il y a encore certaines élections qui n'ont jamais eu lieu. Est-ce que le pouvoir en place aujourd'hui peut nous expliquer la cause, la raison fondamentale de bloquer le processus électoral? Aujourd'hui, le peuple congolais souhaiterait déjà une nouvelle présidence, mais tout est bloqué. Le peuple congolais qui a accueilli cette démocratie à bras ouverts, aujourd'hui le même peuple est victime de la démocratie. Merci, c'est ça mon avis, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Steven. 081-890-4969, 081-890-6380 pour intervenir en direct. Pendant ces temps, Serge Kietakamina garde la ligne ainsi qu'Omar à Kinshasa. Nous allons revenir dans ce studio pour commenter ces points de vue de nos auditeurs. N'oubliez pas aussi que les débats se poursuivent sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Mwana kongo kento to bakala kisalo kusonikisa mazina mekuma na suka kwena swalu kukisonikisa na centre ya seni ina kile pemele ya inzo nange na komini nange mpena kukuma nange
inki mikanda ya kumonisa samu na kukisonikisa
mukanda ya kuputukila toki fanusu na yao ina meza bana na mbula matadi mukanda ina kile kusikimisa nde nge kile mwana inzi kalati tompe mukanda vula mafunda zole na kumi na musi ina seni kupesa kange passport ya Congo ina mimanisa ntete ve mukanda ya mwana zonkanda ina kele ya mbote mukanda ya suka ya kisalu ya bana Congo mume baka karte na munu samna kupona ebuna nge.
Professeur Stéphane Nzita, vous avez suivi les compatriotes, c'est assez intéressant, hein, toutes les interventions de nos auditeurs, et même Stephen de Kindou qui a terminé en disant que la population a été victime de la démocratie, vu qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas été en mesure de tenir un cycle électoral complet et régulier.
Oui, Pierrot, je suis content d'entendre Arsène, José, Maître Sonville, Crispin et même Stéphane, qui vous disent des choses très correctes, que je résume en deux thèmes réellement. Ils abordent un thème d'abord des politiciens qui ont une nostalgie de rester d'abord dans la dictature. Ils sont arrivés là-bas, comprenez bien qu'ils ont bien dit prendre en charge, hein, c'est prendre en charge. Mm-hmm. Donc pour eux, que celui qui est fort soit là et qu'il s'impose et qu'il reste. Mais de l'autre côté, il y a un peuple qui est devenu mûr. Ce peuple-là est en train de montrer une maturité incroyable. Oui, on avait interdit les manifestations des rassemblements, mais à l'arrivée de M. Félix Tshisekedi, le peuple, de manière spontanée, a démontré une force imparallèle que les pouvoirs étaient étonnés. Aujourd'hui, quand nous parlons de ces élections ou de quoi, je pense que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, c'est les efforts des derniers désespoirs. Je pense que le peuple a maintenant, pour revenir à la question, qu'est devons-nous faire pour consolider les acquis des démocraties? Mm-hmm. C'est ça l'important. D'abord, il faut reconnaître que le peuple congolais a montré et a démontré que il n'est pas un peuple mouton. Donc, ne devenons pas moutons, nous n'allons pas accepter tout. La CENI qui est là en train de frustrer le processus. Imaginez-vous, avoir des élections présidentielles ou des élections qu'on peut avoir, c'est une organisation qui va demander des millions de dollars et beaucoup de travailleurs pour chaque parti qui sera inclus. Mais la CENI s'organise de ne pas donner même un calendrier global. Elle pense que c'est elle qui va décider quand elle veut et pour nous donner le calendrier global. On a dit que nous allons avoir des élections en 2017. On est en train d'enrôler des enfants qui ont 16 ans, 17 ans. Bah, et bien, pour quelle fin? Parce que si nous avons des élections en 2017, ces enfants n'auront pas 18 ans. Et on dit, on a déjà autant de millions. Combien d'enfants sont dans ces milieux-là, évidemment, les toilettages. Donc, vous savez que jusque-là, il faut que le peuple n'accepte pas l'inacceptable. On ne doit pas prendre des choses de manière aveugle et on ne doit pas avoir le syndrome d'être vaincu. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais est tellement fort qu'il fait peur à tout le monde. Donc, ma suggestion ici, quand je vois les élections, mais les élections, personne ne les aime. Au monde entier. Parce que la chance de les perdre est toujours là. Mm-hmm. Mais vous savez que nous avons une constitution. Imaginez-vous que nous étions les Français. Nous aurions un président qui serait élu avec 23%. Parce que la constitution que nous avions déjà en 2016, qui est en 2006, quand nous sommes partis au référendum, a été modifiée. Au lieu de deux tours, on a mis un seul tour pour un grand pays comme le Congo. Et aujourd'hui, quiconque a deux voix peut devenir président de la République. Ce qui est dangereux. Mais maintenant, malgré qu'on nous a promis par l'autre camp, qui est au major, a dit que voilà, nous allons changer la constitution, ça n'a pas eu lieu. Et il n'y aura pas changement de constitution qu'ils en veulent ou pas. Et le peuple est en train de s'assumer. Et encore, donc je dis qu'il y a un grand acquis qu'on ne peut pas négocier, c'est que le peuple congolais a développé une certaine résilience. Il devient un peuple qui connaît exactement ce que le peuple veut. Que veut le peuple? C'est clair, c'est simple. Les élections, pas autre chose. Mais alors, c'est là où nous allons voir comment est-ce que nous devons travailler avec scrupule, avec sagesse, pour éviter que nous puissions jeter et l'enfant et l'eau sale. Donc, maintenant, nous demandons, rentrons là où il y a le problème. Le problème, c'est la CENI. La CENI qui vous donne un budget inexplicable. d'un camp, dit voilà, il faut 1,8 milliard, et il s'est réveillé l'autre matin, dit voilà, 1,5 million, 300 000, mais quand vous enlevez 500 millions quelque part, il faut expliquer au peuple quand même. C'est les propriétaires du pouvoir. Mais la CENI se croit indépendante à la logique. Donc, nous avons travaillé, nous autres, à proposer des choses qui sont tenables.
On va arriver aux propositions, mais pour revenir un peu à ça, il y a cette question des libertés fondamentales de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un accède au pouvoir, même quand quelqu'un qui part de l'opposition accède au pouvoir, considère-t-il le processus démocratique comme un mal-aimé?
Vous savez que quand quelqu'un, aujourd'hui, quand on dit pouvoir, c'est quoi? C'est mangeoire, on appelle ça mangeoire, pas pouvoir. On y va pour manger. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des politiciens qui sont des caméléons, qui changent de camp et qui n'ont pas de convictions. La politique sans conviction, c'est une tragédie pour un peuple. Nous avons maintenant des politiciens sans conviction qui aujourd'hui sont dans un camp et dans un autre. Donc nous avons les mêmes gens. C'est que les pays dont, c'est dont le pays a besoin. Ce n'est pas même qu'on tourne la page, qu'on change les livres. Donc nous sommes dans un processus très pénible où nous allons changer totalement ces livres.
Et là, Maître Sonville, y compris aussi Crispin, Maître Sonville a insisté sur les changements des mentalités.
Je pense que c'est un mot qui sonne très, qui se sent très bien, mais il faut changer les livres. Donc, on va changer les termes de jeu, les termes d'engagement. Première chose, ici, nous allons respecter nos textes. Aujourd'hui, on ne va plus aller chercher encore à se craponner devant un texte obscur de la Constitution. Nous avons maintenant une obligation que, plus tard, le 31 décembre 2017, il y aura des changements de pouvoir. Donc, il n'y aura pas à négocier là-bas. Et le peuple ne peut pas se permettre qu'on arrive à frustrer les processus. Vous remarquez que ce qui est fait jusque-là, depuis le 31 décembre jusqu'à aujourd'hui, c'était 4 mois, ces gens ont déjà réussi à empêcher qu'on ait ce qu'on doit avoir pour frustrer justement les processus. Donc aujourd'hui, soyez logique, il devient mathématiquement impossible dans la formule de la CENI d'aller aux élections. C'est impossible maintenant parce qu'ils ont déjà avaler 4 mois. Donc, nous les proposons qu'il faut maintenant une formule qui va, vérifier qui sont les Congolais réellement qui votent, et ils sont où, et comment, et nous avons proposé quelque chose qui peut marcher. Donc, il faut maintenant arriver à ne plus accepter ces choses qu'on nous raconte qui ne font pas de sens.
Et qui frustrent le processus. Et ça, c'est cette phrase intéressante, si Omar peut rebondir là-dessus, la frustration du processus 27 ans après. Pensez-vous aujourd'hui que Omar, que la classe politique congolaise est engagée dans cette frustration du processus démocratique comme on l'a parcouru depuis 27 ans? Bonjour Omar. Omar, bonjour. On a des petits soucis des lignes avec Omar. Nous allons à Kamina. Serge, merci d'être avec nous. Bonjour Serge.
Bonjour Pierrot, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute Serge.
Oui, moi je crois que le problème réside surtout dans les politiques. Ce sont les gens qui aiment toujours prendre la population en otage. Ils évitent de sédentariser les gens. Au cas de je n'ai jamais entendu un seul enfant, un politicien mourir ou quoi là. Ce sont les enfants des pauvres populations là, congolaises. En tout cas, nous regrettons. Et puis, on doit éduquer aussi la population. Il y a les gens qui ne savent même pas pourquoi ils doivent mourir. Quelqu'un vient et vous dit non, messieurs, en tout cas, allons-y nous laver cette histoire, nous allons vraiment combattre les gens, garantir les pouvoirs. Est-ce que ça peut se faire? C'est vraiment effrayant. Nous devons éduquer les enfants et la population à choisir les gens qui peuvent quand même nous représenter et défendre la population. Vraiment, voilà un peu.
Merci beaucoup Serge. Je crois peut-être que la ligne avec Omar s'est améliorée. En attendant, nous prenons Ismaël qui est à Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les amis.
Et Serge disait tout à l'heure, il est dans la même région que vous, que le problème aujourd'hui, ce sont les politiciens qui prennent en otage la population, mais il a aussi insisté sur l'éducation de la population pour consolider ses acquis de 27 ans du processus démocratique. Quel est votre point de vue, Ismaël?
Le premier co-débatteur a dit, c'est normal. On est dans le sens que la culture de la démocratie africaine n'existe pas. On sent juste aujourd'hui que nous pouvons nous réjouir des élections. Mais il s'agit de quelles élections? La volonté du peuple aujourd'hui, c'est que j'ai commenté sur la page Facebook, n'est pas respectée du tout parce qu'après l'organisation des élections, ce ne sont pas le peuple qui élit leurs dirigeants. En plus, c'est derrière les urnes, il y a la commission qui organise les élections qui nomme son président. Mais par rapport, c'est la population, le peuple qui commence à grincer les dents. La question que je me pose réellement, Pyrrhos, dans une démocratie, est-ce que le peuple peut se retrouver ou le peuple ne peut jamais se retrouver? C'est ça l'une des difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, à la fin de tout, pour un peu consolider ses acquis, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devait rentrer dans le sens où faire la référence de ceux qui ont cherché ou ceux qui ont lutté d'abord pour la démocratie. C'est ça l'une des problèmes. Un, nous devons avoir la liberté de l'expression, la liberté de la manifestation publique. Et tout ceci entre en jeu et en compte, et la population a aussi se réjouir. En quoi? L'emploi, l'expression et la liberté. C'est tout ce qu'il peut faire. Juste quand nous ne nous exprimons pas et nous ne votons pas, ce que nous votons, ce n'est pas le candidat que nous espérons vraiment. Nous sommes totalement déçus et la démocratie en Afrique ne peut jamais avoir du succès. Dans le sens aujourd'hui, ce dont nous pouvons espérer, dans d'autres siècles, plutôt que ces gens, parce que la plupart des dirigeants africains sont des dictateurs. Je ne songe pas même à leur population. Mais comment on peut faire, soit on peut parler aussi de la démocratie. Cette question, pour moi, je vois que c'est insolvent et ça ne peut pas avoir du succès. Merci beaucoup.
Merci, Ismaël. Vous estimez qu'on a un problème de déficit de la culture démocratique. Vous avez évoqué tout à l'heure les paradoxes au niveau des élections. Vous estimez que ceux qui sont élus par la population ne sont pas ceux qui sont proclamés par l'organe qui organise les élections. Nous avons les débats sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Basque Angoï dit ceci. Les processus démocratiques en RDC a beaucoup de problèmes et les fautes sont partagées entre les gouvernants et les gouvernés pour mieux asseoir la démocratie. Dit-il, nous devons respecter les conditions d'un état des droits. D'une part, les libertés des manifestations, les libertés des paroles pour les gouverner, avoir l'amour de la patrie et savoir quand revendiquer et pour quel but. Alain Bolodua estime que l'histoire de la RDC est falsifiée à dessein. Point n'est besoin de rappeler que notre pays a été démocratique au lendemain de son accession à l'indépendance. Ce sont les révolutionnaires des 65 avec leur constitution des 67, dite des révolutions des 70 et la réforme des 71 qui ont stoppé l'élan démocratique. Il serait de mauvais aloi de dire que la démocratie aurait été instaurée le 24 avril 1990. Dès lors que les événements politiques qui ont suivi cette période en disent le contraire. S'il faut parler de la démocratie, c'est à partir de 2006 où les droits souverains a été reconnu au peuple qui est par. C'est aux élections. Sylvain Louma de Kinshasa pense que les efforts sont quand même à noter, tels qu'énoncés et dans notre exposé. Mais un des piliers très importants de la démocratie, c'est l'organisation des élections à des cycles réguliers et à tous les niveaux prévus par la loi. Mais chez nous, il y a une impasse. Pour nous en sommes au-delà de l'échéance légale, mais les élections n'ont pas été organisées. Mais aussi, la démocratie implique l'état des droits, la transparence, la justice. Mais on remarque que l'état des droits, la transparence et la justice ne sont pas vraiment observés dans notre pays. Franck, merci d'être avec nous. Vous êtes à Vienne. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour M. Pirro, bonjour à l'invité et aussi à tous les amis qui se sont déjà exprimés.
Et Alain Bolodua disait tout à l'heure qu'on ne peut pas parler de la démocratie après, à partir des 90, mais si nous prenons le règne, parce qu'on a parlé du règne de Maréchal Mobutu après près de 30 ans, c'est juste cette période à laquelle on situe le monopartisme et le régime sans partage. Et après 90, où les choses ont pu évoluer dans le sens du pluralisme politique. Alors, pour vous, est-ce que la question de la démocratie en lisant le message d'Alain, c'est une question individuelle ou c'est une question de la communauté congolaise dans son ensemble?
Oui, merci beaucoup. Je crois que le sujet devait interpeller les consciences des citoyens congolais parce que à partir du nombre des années, 27 ans après, c'est déjà deux décennies, nous tendons déjà vers la troisième. Et imaginez-vous un enfant qui devait être né en 90, aujourd'hui il a 27 ans, il doit avoir quelle taille, il doit avoir quelle masse et qu'est-ce qu'il a déjà expérimenté dans la vie. Pour moi, c'est une thématique qui devait encore nous interpeller, parce que je me rends compte que nous ne devons pas seulement nous réjouir naïvement du fait d'avoir 400 partis politiques et autant de mouvements syndicaux, mais nous devons maintenant nous poser des questions de fond en tant que citoyens congolais l'un en face de l'autre. Comment ces partis politiques sont-ils gérés? Avec quelle vision politique? Défendant quel projet de société? Et si seulement nous devons nous référer à la manière de créer des partis politiques chez nous, on ne crée pas des partis politiques avec vision d'éduquer les citoyens pour défendre un projet de société, mais les partis politiques sont seulement devenus des boutiques politiques pour permettre au président de tel parti politique d'avoir une certaine parcelle d'influence et pour bien nourrir ses ambitions. Oui, vous avez parlé de la constitution. C'est vrai, nous avons une constitution. Elle est là. Mais la vraie question, ce n'est pas seulement d'avoir une constitution, parce que la constitution est constituée des articles. Mais comment elle est-elle appliquée? Je crois que ce sont des questions de fond que nous devons nous poser pour savoir si 27 ans après, nous avons déjà fait énormément de progrès ou ce n'est pas du surplus que nous sommes en train de faire. Monsieur Pierrot, vous m'avez posé une question au début. Là, je crois que la démocratie, c'est un idéal, c'est une aspiration. Et cet idéal, cette aspiration est d'abord ancrée dans le mental d'un individu et ça doit d'abord être ancré au niveau personnel et aussi au niveau de la communauté. Mais je me rends compte que chez nous, on parle trop de la démocratie, on se cache derrière cette conception de la démocratie. Mais quand je vois comment la politique est faite chez nous, il n'y a pas tous les réflexes démocratiques parce que les médias sont parfois prises en otage pour un tel compte, pour une telle famille politique. Et il y a encore des prisonniers des opinions politiques. Et si nous nous rendons à Makala, il y a des gens qui sont terrorisés parce qu'ils émettent librement leur point de vue. Et la constitution à laquelle vous faites allusion, elle est appliquée selon les sauts d'humeur. Et je crois qu'on ne doit pas seulement se contenter de dire « nous avons une constitution », mais la question est de nous demander si nos citoyens congolais, commençant par les sommets jusqu'à la base, si nous nous soumettons tous devant cette constitution de la même manière. Mais du moment où nous savons qu'il y a des intouchables qui ne se laissent jamais fléchir, qui n'acceptent jamais de respecter cette constitution, ou qui se servent de la même constitution pour leurs propres intérêts. Est-ce que cette constitution-là répond encore aux désidératas de la population? Je crois que 27 ans après, moi je dirais que je me montrerai toujours réservé tant que l'esprit reste le même.
Merci.
Quand le
Merci
maréchal Mobutu disait le 24 avril en 90, nous étions encore tout jeunes. On a espéré au changement, mais 27 ans après, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a un changement. Peut-être le nombre de partis politiques se sont multipliés, les médias aussi, mais ces médias-là, ils ont quelle grille de programme, ils défendent quoi? Moi, j'aimerais que nous nous posions des questions de fond en tant que citoyens congolais afin de nous rendre compte si vraiment nous avons fait des progrès, mais en tout cas, selon moi, la note qu'on peut donner à nos politiciens de la majorité ou de l'opposition, c'est la médiocrité, c'est le manque de constance, c'est de l'irresponsabilité parce que avec ce qui se passe pour le moment à Kinshasa, on ne peut pas vraiment nous dire que nous avons des politiciens qui sont capables de défendre les biens communs de la population.
Merci beaucoup, Franck. Vous aurez aimé que la population se pose des questions de fond autour de ce qui a été fait. Rappelons quand même, parce que vous avez évoqué l'inconstance politique, hein, il y a eu un papier très important qui a été diffusé sur les antennes des radios, copié un travail de notre confrère Innocent Olenga. Il s'est passé il y a 24 heures sur les antennes des radios Capi. Nous avons des éléments assez intéressants. Et si nous partons de ces partis qui ont existé en 90 avec le mouvement populaire de la révolution ainsi que l'union pour la démocratie et le progrès social qu'on peut considérer comme les ancêtres des partis pendant cette période, Innocent a relevé qu'à partir de 2001, il y a eu un éclatement des partis politiques, par exemple avec le MLC, de qui est né au moins 14 partis politiques, le RCD, de qui est né 9 partis politiques, le PPRD, qui a donné naissance à 5 partis politiques, et autant d'autres partis politiques qui sont partis d'un parti maire. Alors on estime que la question de l'inconstance, elle est vraiment assez prononcée dans notre pays. On retourne ici à Kinshasa avec vous, André. Merci de nous avoir contacté pour intervenir. André, bonjour.
À l'invité.
On vous écoute, André.
Merci. Moi, je pense que depuis le 24 avril 1990 jusqu'à aujourd'hui, nous devons dire qu'il y a eu des avancées sur la démocratie dans notre pays. Peut-être que ceux qui n'ont pas connu l'avant 24 avril 90 ne peuvent pas s'en apercevoir. Mais nous qui avons connu cette période-là et après, il y a des avancées quand même. Mm-hmm. Mais je voudrais insister que la démocratie dont on parle doit commencer à la base, c'est-à-dire dans nos partis politiques. Malheureusement, il y a éclosion de partis politiques, mais au sein de ces partis politiques, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'expression, la liberté de l'expression. C'est ce qui fait que ceux qui sont exclus, parce qu'ils ont peut-être mis un autre son de cloche au sein de leur parti politique, quand ils partent, ils forment aussi leur parti politique. Donc, il y a des petits dictateurs au sein des partis politiques. Et là, la démocratie ne peut pas avancer quand il n'y a pas de démocratie à la base. Nous ne pouvons pas seulement voir la démocratie au sommet, entre la majorité et l'opposition. Mais nous devons commencer par le parti politique. Deuxièmement, moi, je m'insurge contre la plupart des partis politiques parce qu'ils ne font pas leur travail. Le premier objectif d'un parti politique, c'est former, informer et encadrer la population. Combien de partis politiques expliquent à la population les contenus ou la philosophie de la Constitution? Trois ou quatre articles, c'est fini. La majorité de la population ne connaissent pas leurs droits, leurs devoirs. Il y en a qui pensent qu'ils n'ont que des droits. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, au sein de nos partis politiques, on doit faire beaucoup d'efforts.
Merci.
Pour que la population soit formée, informée. C'est comme ça que chacun va défendre les droits et ils doivent aussi obéir à leurs devoirs.
Voilà,
voilà ce que je voulais apporter.
Merci beaucoup, André.
Par rapport à tout ce que les autres ont dit.
Merci beaucoup, André. Je reviens à vous, professeur Stéphane Nzita Nzita. Si on peut rebondir à ce que beaucoup de compatriotes ont dit, beaucoup de choses. André insiste beaucoup sur la démocratie à miniature, si je peux utiliser les termes. Si elle n'existe pas au sein des partis politiques qui vont constituer l'ensemble de la gestion de la nation, ça sera difficile de pouvoir la vivre. Et c'est ça aussi le travail d'éducation qui doit se faire.
Je pense que nous sommes en train d'entrer dans les pièges de gens qui ne veulent pas que les pays marchent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à faire les dédoublements des partis politiques juste dans le but de montrer qu'il y a trop de partis. Ce n'est pas les trop de partis qui fait le problème. Mais le problème, c'est quoi quand je les entends? C'est la justice. C'est la primauté du droit. Que tout le monde soit égal devant la loi. Et quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui s'impose, et vous voyez des gens que nous connaissons qui sont pauvres. Dès qu'il est ministre, il devient riche. Nous savons que c'est déjà un enrichissement sans il cause existe, oui. Et qui devait être poursuivi. Mais la justice est vraiment calme. Et nous voyons deux poids, deux mesures. Donc le peuple demande qu'il y ait la primauté du droit. Démocratie a toujours une forme autochtone de chaque pays. Donc la démocratie de la Belgique est différente de la démocratie des États-Unis, du Canada et des Royaume-Uni. Donc ce n'est pas là le problème. Le problème est que, est-ce que la justice est là? Deuxièmement, c'est la paix et la sécurité. Prenez l'enfant qui est né à l'est dans l'est de la République. Depuis 27 ans, toute une génération, cet enfant ne connaît que la misère, la violence, parce qu'on veut voler les minéraux qui sont là. Et voler les terrains, parce qu'avec les lois, mais l'homme qui a fouillé la maison, on est parti prendre des papiers qui viennent du ministère des Affaires foncières, et celui qui a mené les propriétaires, ce n'est pas lui qui était là-bas toujours. Donc nous devons voir, qu'est-ce qui peut mettre la paix? Et la paix, et quand un enfant s'élève là-bas, voilà, moi je suis des louchats, on doit l'arrêter. Ben, il demande lutte pour un changement, ça qui veut dire. Donc ce n'est pas les mots qui manquent, les enfants se battent, mais c'est que nous avons un système que nous devons totalement déboulonné, justement les sociales. Chaque personne au Congo, même celle qui n'a pas étudié, connaît qui veut dire délestage. Donc vous avez un contrat social avec l'ESNEL, avec Régie des Eaux, mais ces compagnies sont des mangeoires, n'ont pas d'exister, n'ont pas de l'eau, et tout le monde en manque. Et nous voyons qu'il y a des habits incroyables. Ben, quand il n'y a pas l'eau, on nous explique les théories incroyables du fleuve Congo, qui ne nous intéressent même pas. La liberté d'expression, que les gens disent ce qu'ils veulent dire, et pas seulement dire, mais il y a oui, les gens disent ce qu'ils veulent dire maintenant. Mais on nous impose des choses. Donc vous savez que la liberté que nous cherchons ici, quand j'entends mes frères parler, oui, il y a eu, quand nous parlons du 90, c'est qu'il y avait le multipartisme avant l'indépendance. Depuis que nous avons eu le coup d'État, Mobutu a confisqué les pouvoirs, a créé un seul parti maintenant. Eh bien, cet esprit-là, cette nostalgie, ces gens sont encore là. Ils ont encore le virus de ce temps-là.
Et pourtant, il faut qu'on tourne. Vous avez dit, il faut qu'on écrive un nouveau livre.
Un nouveau livre dans lequel on dit, voilà la volonté des droits pour tout le monde.
On va t'écouter les deux derniers auditeurs, Félicien. Vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Je crois, dans plusieurs fois qu'on s'est retrouvés dans ces débats, vous avez toujours milité pour la lutte contre la médiocrité. 27 ans après, quels sont pour vous les éléments clés, Félicien?
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs et bonjour aussi à l'invité. Franck vient de le dire, tout se résume dans la médiocrité de la classe politique que nous avons actuellement. Tout se résume par les problèmes d'hommes que nous avons et nous devons arriver à avoir, je ne sais pas par quel moyen, une nouvelle classe d'hommes politiques, et pas vraiment des hommes politiques, mais des hommes d'État qui ont le sens d'abnégation et qui doivent chercher l'intérêt supérieur de la nation. Comme à l'époque des indépendances, vous connaissez ces gens qui ont été à la table ronde, n'avaient pas de gros diplômes que nous avons aujourd'hui, mais ils avaient l'éthique, la morale et le patriotisme, ils se sont battus pour l'intérêt supérieur de notre nation. Moi, j'ai toujours pensé que l'Afrique en général elle n'est plus dirigée par les Africains. Et ce sont les Occidentaux qui se sont fait remplacer par des marionnettes et africains et qui dirigent l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'état de notre pays. On vient, on fait une guerre, les gens meurent pour chasser un dictateur, Mobutu, et parce qu'il ne veut pas de la démocratie, alors qu'il avait déjà annoncé le 24 avril 1990. La démocratie, mais on veut le chasser parce qu'il ne veut pas de la démocratie. On ne l'a pas chassé avant. Mais après avoir annoncé que le pays est entré maintenant dans la voie de la démocratie, on veut le chasser. Et on le chasse, on retrouve ces gens-là qui ont chassé Mobutu. Et c'est là qui protégeait Mobutu. Tous ces ligues contre le peuple pour faire plus de dictature que Mobutu. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Qu'est-ce qui nous arrive? Et c'est là le combat, c'est commencer à nous préparer. Merci. À trouver une nouvelle classe politique.
Merci.
Qui vient se battre pour le pays, qui vient se battre pour l'intérêt général.
Merci beaucoup Félicien. Alain, merci d'être avec nous. On venait d'exploiter votre message tout à l'heure sur Facebook et en une minute, comme le message a été déjà exploité pour vous, comment consolider les acquis de ces 27 ans?
Bon, merci pour la parole. Je crois qu'il y a un problème de prédisposition. Si nous prenons la dimension culturelle, on va se rendre compte que les Congolais ne sont pas encore en mesure d'intérioriser les valeurs démocratiques. Voilà pourquoi on doit mettre l'accent sur la sensibilisation, on doit mettre l'accent sur la conceptualisation même du concept de démocratie. On doit bien la cerner pour permettre à ce que nous puissions bien le mettre en application.
Merci beaucoup Alain. Il faut beaucoup de sensibilisation pour enfin de conceptualiser le concept de démocratie. Professeur Stéphane Nzita, on revient à vous pour conclure. Et c'est dans cette conclusion, parce qu'on n'a qu'une minute et demie, vous pouvez donner cette proposition pour qu'on puisse sortir de l'impasse un peu rapidement.
Je pense que les problèmes de moralité et de légitimité, c'est un problème sérieux. Il y a trop d'hommes immoraux qui veulent diriger. On ne peut pas diriger avec l'immoralité, impossible. Et quand on est illégitime, on s'impose, c'est dangereux. Nous proposons quoi? Les élections. La clé, ce sont les élections. C'est la CENI qui a la mission de frustrer les processus. Nous voulons que la CENI donne un calendrier. Nous proposons ceci, simplement. Que nous puissions prendre les Congolais, être partie de la solution. C'est-à-dire, dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque groupement, dans chaque commune, que nous ayons de jeunes gens qui vont travailler avec les gens qui dirigent là-bas, pour arriver à voir un papier qui aura quatre feuilles. Nous allons remettre rapidement l'état civil, nous allons avoir les bureaux de vote et nous allons avoir ceci. Et si on le faisait simultanément, pas comme la formule de la CENI qui va là-bas, mais simultanément on fait ça dans la République, nous pourrons avoir les élections au plus tard le mois de novembre.
Et dans ces conditions, le processus risque d'être frustré à la fin de cette année et qu'on n'aille pas facilement les élections.
Pour le moment, la mission de la CENI est déjà acquise. Elle a frustré les processus.
Merci.
Quatre mois qu'on vient de jouer avec les peuples congolais, on ne peut pas voir les élections maintenant. C'est mathématiquement impossible avec les quatre mois déjà volés par les politiciens.
Merci beaucoup, professeur Stéphane Dita Dinzita, d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux à commenter ces sujets autour du processus démocratique 27 ans après. Merci à l'équipe des productions des paroles, aux auditeurs. Nico Kalamba a été à la réalisation, la mise en onde assurée par André Mongou. Pierrot Elamenji vous a présenté cette émission sous la supervision de Martin Sebujang. Paroles aux auditeurs vous retrouve demain à 10h, 3 minutes heure de Kinshasa pour une nouvelle thématique. D'ici là, passez d'agréables moment en compagnie de Radio Okapi. Au revoir.